Chères auditrices, vous êtes de retour au lavoir avec les lessiveuses. Comme chaque mercredi après-midi, pendant une heure, on fait le ménage dans nos bibliothèques, on met en sourdine Hugo, Baudelaire et autres australopithèques, et on fait tourner le micro pour dire les écritures de celles et ceux qu'on n'a pas bien entendus. Comme chaque mercredi donc, on se lave l'esprit à coups de poésie, polyphonie, littérature féministe et chronique astrologie. Alors aujourd'hui, notre Manon ouvre le bal. Elle nous lit le texte de Zéa Beaulieu-April, extrait du recueil de nouvelles Zodiac aux éditions La Mèche. Aujourd'hui, place au Bélier, premier signe du Zodiac. La saison du feu est ouverte pour notre plus grand bonheur. Laura, quant à elle, nous présente le livre L'écriture sur le corps des femmes assassinées de Ciudad Juárez de Rita Laura Secato, qui traite des problématiques et enjeux des féminicides qui ont lieu dans la ville mexicaine. Savannah ensuite nous lira un texte de sa création et je vous lirai un poème de Manon. J'en profite pour vous partager ici avant de commencer notre météo du jour. Aujourd'hui, les lessiveux se sont réveillés, le cœur rempli d'amour et les paillettes plein la pupille. Hier soir, au bar La Gougnotte, c'était la présentation du numéro 0 de la revue poético-postale La reprise de l'amour, créée par l'artiste et performeuse Manon Alla. Pour cette soirée d'ouverture, elle nous a concocté un speed dating poétique, suivi par les performances poétiques de Lou Pelletier, Alice Beylac, Miel Pagès et Manon Alla, puis une scène ouverte à laquelle certaines d'entre nous se sont essayées. On en est ressorti avec un gros boost d'amour et d'énergie et une nette hausse du taux d'alcoolémie. La reprise de l'amour, on vous la conseille pour la beauté de son format et de ses différentes voix. La revue est disponible dans différentes librairies de Toulouse et dans une prochaine émission, on recevra Manon qui viendra nous présenter sa revue. À notre Manon maintenant.
Nous sommes entrés dans le signe du Bélier ce 21 mars. Premier signe du zodiaque selon l'astrologie. C'était également le jour du printemps. Saison des fleurs, saison des cornes, le Bélier est un signe de feu. Le premier, il entraîne, il initie, il est mouvement et vie. Ces derniers temps, le vent d'autan a chassé le dernier signe du zodiaque. Les poissons, pour ne pas les nommer, et les a renvoyés à l'autre bout du planisphère, là où ils devront attendre encore un an pour fêter leur anniversaire. Poisson et bélier s'opposent un tantinet. Le poisson fuit, le bélier provoque. Mais comme le dit Zéa Beaulieu-April dans le texte que je m'apprête à vous lire, l'éthique des cornes est de ne provoquer que d'autres cornes, ne pas s'attaquer à plus mou que soi. Le poisson fond, le bélier tient. Je ne vais pas vous faire un dessin, j'ai une légère dent contre les poissons. Contre un en particulier, qui est retourné se plonger dans la mer, et tant mieux pour lui. On lui souhaite de ne pas se perdre. L'océan est grand et les requins méchants. Alors, je vais vous lire à présent un texte de Zéa Beaulieu-April. Zéa Beaulieu-April a prêté main forte à Fermaille en 2012, puis à la tournure 2013-2017. C'est une autrice québécoise. Elle est l'autrice du recueil de poèmes Goulka et de plusieurs zines, dont Je suis Daniel Canty et Hollywood Stars and Celebrities. Son univers incorpore aussi la musique, principalement au sein du groupe La Fièvre. Tout commence avec moi. J'entame. À 8 ans, j'aime prendre des décisions. J'ai l'intuition que mes choix m'édifient, que mes préférences érigent mon architecture. J'ai une couleur préférée, le rouge. Un animal préféré, la chauve-souris. Un nombre préféré, le 5. J'en deviens l'énumération. Je suis une liste. Peut-être que je suis d'abord et avant tout cette obsession pour l'échafaudage de mon ego. On veut du feu, du feu. Je vais en donner du feu. J'ai de bonnes intentions, chaudes et réconfortantes. Mais possible que ça me dépasse, possible que ça brûle, que ça blesse, possible qu'un coup de vent m'emporte et m'empire. J'espère être totale, pleine, entière comme un caillou. Être au maximum de mes capacités, comme un caillou. Le combat peut sembler inégal entre le caillou et moi, mais ce n'est pas une compétition. C'est un défi que me lance le caillou. Note 1. Vivre. Initier avec le jeu. Enclencher le désir. Avancer pour soi. Né à bonne distance de la civilisation, sans frère ni sœur, je ne peux pas me bâtir en me comparant aux autres. Je dois me sentir de l'intérieur. Sur mon territoire, je salue mon arbre préféré, l'épinette. Ma roche préférée, l'agate. Mon fruit préféré, la framboise. Je n'ai pas peur des bruits dans la forêt. Je crée de nouveaux chemins, des marques de mon passage. Je m'enfonce de plus en plus, je me dépasse. Ainsi, j'étouffe la colère. Tant que je pourrai dire sans hésitation quel est mon pays préféré, l'Égypte, rien ne pourra me faire de mal. Note 2. Innover. Le nouveau geste n'est pas nécessairement un geste neuf. Prendre le risque d'initier l'inexploré. Pas de bon ou de mauvais geste, seulement la peur et l'audace. Mes dents sont tisons, mais mon sourire n'effraie pas. Ce qui fait fuir, c'est cette chose qui monte parfois à ma pupille que le miroir ne m'a jamais montrée. Mais je sais que le serpent qui veille dans mon ventre passe dans mon regard pour s'y mirer. Je sais. Il m'arrive de surprendre son reflet dans les yeux de l'autre avant qu'on se détourne de moi, avant qu'en prévision du pire, on prenne ses distances. Savoir que je peux blesser me rassure et m'effraie à la fois. Je suis une enfant brouillonne. Je suis une enfant boiteuse. Je suis une enfant brusque. J'ai les cheveux des moutons et de la corne aux mains à force de grimper aux arbres. Je ne comprends pas la cadence des gestes des gens. J'aimerais les accélérer. J'en ai contre la prudence. Chaque grasse matinée est un crachat à la face de la vie. M'accorder un répit serait crever d'avance. Je reste dans l'élan. Note 3. Ignorer, nier l'obstacle, ruser de naïveté. Ce qui n'arrive pas à nuire, n'arrive pas à détruire. Immobile, j'implose. Je sens le serpent qui s'agite, se tord, s'impatiente. Je ne peux surtout pas le laisser sortir, alors je bouge, je fais du vent. Nous nous allumons et ça nous calme. Dans la chaleur du feu, je le sens se rouler dans mon bassin, trouver une paix et s'endormir. En étudiant bien les adultes de ma maison, je remarque que la mère semble plus émotive, douce, avenante, souriante, discrète, souple. Le père apparaît plus intellectuel, sérieux, rationnel, têtu, engagé, curieux et n'a pas peur de lever le ton. Je retiens que je suis un mauvais féminin, que ma colère gâche ce qu'on pourrait attendre de moi. Je me prépare à déranger. Il n'est pas question de devenir autre, mais il y a la déception de savoir que je ne serai jamais aimée. Note 4. Exulter. Prendre la joie dans la course, dans l'idée de la course. L'événement du premier coup de sabot. Kairos. J'aimerais qu'on devienne sensible à mon urgence. Ce n'est pas la peur de la mort, c'est le feu de vivre. Je me moque d'avoir 100 ans devant moi. C'est cette seconde que je dois surcharger. Je ne demande pas plus de temps, je demande au présent d'être épais, intense, vibrant. Je ne crois qu'à l'explosion, l'événement et ma paix. Le serpent connaît le sablier, c'est lui qui le retourne, qui sait à combien de tours nous avons encore droit. Lui qui garde le secret et se contente d'agiter sa queue dans ma gorge. Un jour, la mère me traîne dans une boutique de bricolage spirituel. Avec le père, ça aurait été impossible, stupide, ridicule, insensé. Mais je partage avec elle un penchant pour l'occulte, l'interdit. Puisque je suis coincée dans cet héritage contradictoire, le lieu m'attire et me répugne. On y trouve des bibelots, de l'encens, des bougies, des cristaux. Des choses que j'ai apprises à mépriser. Je me sens interpellée par le présentoir de pierres correspondantes aux signes astrologiques. La mère m'explique que ma date de naissance fait de moi un bélier. Mes yeux brillent, la pierre est rouge. Je fonce, cette envie de lutter ne me quitte jamais. Note 5. combattre. Les tics des cornes et de n'entrer en collision qu'avec d'autres cornes. Ne pas s'attaquer à plus mou. Surtout, rechercher le son saturé. La vibration dans le corps, ne pas nier le plaisir de la confrontation. On voudrait me contenir, mais tout me déborde. Je finis en cendres, mais douce, si douce. Personne n'est assez proche pour le constater. On a fui, mais je deviens chaude et douce, prête à consoler, prête à aimer. J'imagine qu'on n'y croira pas si facilement. Mais tranquillement, la force du feu bat le feu, contrôle le feu par le feu. Brûlée et affamée, je dévore mes cendres pour m'en remettre. Dans la voiture, je lis le carton d'emballage de la pierre. Je suis bélier, ce qui est associé non seulement avec une couleur, le rouge, un chiffre, mon nouveau chiffre préféré est le 1, un jour de la semaine, le mardi, mais aussi avec des traits de personnalité. Innovation, courage, honnêteté, enthousiasme, spontanéité, créativité, impulsivité, initiative, audace, entreprise, assurance, énergie, pouvoir, égocentrisme, ambition, indépendance. Je suis une liste où l'on mentionne aussi la colère. J'espère une grotte, mais la forêt débouche sur un pré. Je cours en pensant à mon « moi » préféré. J'aime tant octobre, mais je ne voudrais pas trahir avril. Le soleil me passe à travers, le vent me passe à travers. Je suis lavée par la vitesse et le serpent se sent en paix. La grotte, finalement, n'est pas un idéal à rejoindre. D'un coup de couteau, je retire cette idée maintenant étrangère. Lorsque la course m'ennuie, chevaucher, choisir un compagnon. Le saisir par la queue, par le sabre, aucune lame ne me blesse. Que coule le sang, que coulent tous les fluides, car nous ne sommes pas que liquide. Nous sommes la chaleur, le frottement, l'étincelle, le cri, le point précis du plaisir. Note 6. Jouir. Je ne suis plus un mauvais féminin, je suis un bon bélier. Je suis le feu, je suis l'épée, je suis les cornes et la toison. Je ne suis pas une princesse innocente, mais une guerrière sans clan. Comme le printemps, je connais la meilleure route pour arriver à mes fins. Et la colère. J'en ai connu qui sont morts. Aujourd'hui, je ne veux pas faire la même erreur. J'endure. Quand vient l'heure de dormir, je suis déjà sous les draps. Jamais une mauvaise nuit de sommeil ne me gâchera une journée. Aucun jour à perdre. Au matin, je bois 3 tasses de thé brûlant et laisse l'énergie me dépasser. 3 options. Soit je travaille 12 heures sur les projets qui me passionnent, soit je sors des pensées en mettant le feu à mon budget. Soit je m'offre un concert agressif et un nouvel amant pour agrémenter février. Sans surprise, j'arrive à faire les 3. À 16 ans, un vieux bohème aveuglé par ses bricolages spirituels me dit « Tu es un serpent ». À 22 ans, un jeune botaniste déjà érudit me dit « Tu es un serpent ». Je dirais même « un crotal ». Ont-ils senti la flamme qui danse en moi ? Note 7. Dire. Brusquer si nécessaire. Toujours avec passion. Toujours avec intégrité. Amour de soi. Croire à la vérité de l'intuition, mais ne s'arrêter sur aucune réponse. Rebondir. Sans avertissement, ça me déborde. Des mots trop forts, le ton trop dur. On court se réfugier, mais je suis déjà prête à passer à autre chose. La cicatrice fume encore. Une longue coulée de lave sort de ma bouche. Plus vieille, j'ai maintenant Internet pour me dire que le serpent serait lié à la force de vie, l'énergie sexuelle et les pouvoirs de guérison. On l'utilise comme symbole de la transmutation et de la renaissance. Il pourrait conférer la force d'accepter nos morts et naissances successives. Ça me suffit. Je ferme un énième site New Age au design douteux. La main sur le ventre, je dis à voix haute. Eh bien, t'en doutais-tu ? J'ai plusieurs cicatrices, la sculpture oblige. Marque d'erreur, de rectification, de nuances d'apprentissage. Devenir quelqu'un laisse des traces. Note 8. Inspirer. Pendant que les yeux sont sur nous, garder la tête haute. Vivre, innover, ignorer, exulter, combattre, jouir, dire. Être l'impulsion des gestes des autres. Aujourd'hui, on m'invite à écrire sur mon signe astrologique. J'aimerais dire la liberté que m'a apporté ce qu'on pourrait limiter à une boîte, à une limite. Je veux rappeler au bélier ce qu'il représente. Je veux aussi raconter une légende plus abstraite. J'ai des intuitions, quelques textes commencés. Je voudrais tout dire, mais je n'ai pas le souffle long. Je crache les idées, fais confiance à la circulation entre les lignes. Je sors le couteau et retire tout ce qui pourrait être superflu. Il reste un peu de chair sur la lame, je n'ai pas la patience de tout lier, je garde la tête haute, je fais confiance aux fragments. Avec cette lame à la main, avec cette lame à ma main, je n'ai pas fini d'effrayer, mais je tranche le pain que je distribue, je me donne en spectacle, j'avale l'épée, j'utilise la lame pour refléter la lumière, je regarde le serpent dans les yeux. Je blesse de moins en moins souvent et plus souvent par accident. De brasier, je deviens phare. Me voyez-vous ? Tout commence avec moi. Le commencement, seule vérité du temps.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Laura au micro et je vous reviens pour vous parler d'un petit essai conseillé par la Bibliothèque Anarchie Féministe de Toulouse que j'ai vu passer sur leur Instagram, donc merci à elle vraiment. Et il s'intitule « L'écriture sur le corps des femmes assassinées » de Ciudad Juárez, « Territoire, souveraineté et crimes de second état ». Il est écrit par la chercheuse argentino-brésilienne Rita Laura Secato et traduit par Irma Vélez. C'est disponible aux éditions Paillot Rivage depuis mars 2021 et c'est un texte capital pour comprendre les violences qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu au Mexique, plus précisément à la Ciudad Juárez. Avant de revenir sur ces événements, je vais d'abord présenter Rita Laura Secato, dont le nom m'était inconnu jusqu'à aujourd'hui, dû à l'absence de traduction de ses textes, qui sont pourtant fondateurs et fondamentaux, dans l'avancée juridique de beaucoup de pays en matière de défense des droits des femmes. C'est une professeure d'anthropologie et de bioéthique au sein de la chaire UNESCO de l'Université de Brasilia. Alors, pour expliquer vite fait, la chaire UNESCO, c'est un projet mené par des équipes dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui travaillent en partenariat avec l'UNESCO dans le but de faire progresser les connaissances et la pratique dans un domaine prioritaire à la fois pour l'établissement et l'organisation. Rita Laura Secato est une féministe décoloniale qui s'inscrit dans la pratique d'une anthropologie à la demande, c'est-à-dire qu'elle vient en soutien à des personnes, à des collectifs ou à des institutions qui s'adressent directement à elle pour développer un ensemble d'outils juridiques et de politiques publiques destinés à combattre des injustices. La traductrice Irma Vélez, qui a rédigé la préface de cet essai, résume son parcours ainsi. Rita Laura Secato demeure l'une des chercheuses les plus reconnues du nord au sud de l'Amérique pour son engagement exceptionnel contre toute forme de violence raciale ou genrée. Elle est aussi identifiée pour sa capacité à faire valoir la différence dans une volonté de préservation du pluralisme culturel qu'elle estime indispensable à la survie de notre espèce. Elle a été honorée de nombreux prix et l'on ne saurait dire que la reconnaissance n'a pas été au rendez-vous de ses travaux de recherche, non seulement parce qu'elle a reçu les plus grandes distinctions honorifiques académiques du sous-continent, mais aussi parce que c'est une des rares universitaires féministes de surcroît ayant produit depuis le sous-continent et publié en anglais aux États-Unis. Elle est devenue une voix sans frontières dans l'ordre de la diversité culturelle. On le constate en effet, puisqu'elle a une influence majeure après l'affaire Weinstein, ou encore a été la source d'inspiration principale pour la création du chant El Violador Eres Tú, le violeur c'est toi, créé par le collectif féministe La Stesis pour manifester contre les violations des droits des femmes en 2019 au Chili. Pour le grand public, c'est en chantant que l'œuvre de Secato a d'abord fait le tour du monde pour le toucher. Découvrir son œuvre, c'est donc accepter de s'ouvrir à l'altérité autrement que par des rapports de domination, c'est renouer avec du lien interculturel et redonner, depuis la rue, un pouvoir d'agir aux femmes. Elle est l'autrice d'une œuvre capitale dont on attend la traduction en France, La Guerra contra las Mujeres, la guerre contre les femmes. Il sera normalement disponible en avril, si vous pouvez vous le procurer, procurez-le vous vraiment, et on peut voir cet essai donc comme une introduction aux travaux de la chercheuse. J'insiste aussi sur la traduction, parce qu'on va le voir par la suite, il y a un véritable enjeu de la langue dans le travail de Secato, puisqu'elle cherche à nommer de façon précise et intelligible les impunités commises par l'État et le système patriarcal, en usant notamment de néologismes. Elle est très attentive aux traductions de ses textes pour ne pas dénaturer son travail de recherche. Elle propose par exemple de distinguer féminicide et fémigénocide, soit une catégorie concrète qui puisse être portée au niveau juridique de la juridiction internationale des droits humains. Pour elle, il n'y a pas de crimes sexuels, mais des crimes de pouvoir, de domination et de punition. La femme meurt non pas à cause de relations interpersonnelles, mais à cause de son genre. Le point de départ de cet ouvrage, c'est Ciudad Juárez, une ville mexicaine à la frontière des États-Unis d'un peu plus d'un million d'habitants, et qui retient malheureusement depuis de trop nombreuses années l'attention de la communauté internationale pour les féminicides commis sur son territoire. Entre 1993 et 2011, on dénombre plus de 1300 femmes tuées, mais ce chiffre est très certainement faible face à la réalité sur le territoire. Les corps de ces femmes portent des marques de sévices sexuels, de tortures et de mutilations. Ce sont des meurtres ancrés dans une forme de systématicité, de brutalité et surtout d'impunité, puisque les autorités locales n'ont aucun pouvoir ou du moins n'agissent pas pour condamner ces crimes. 6 États sur 32 au Mexique concentrent 50% des victimes d'homicides, a indiqué la ministre de la Sécurité publique, Rosa Isela Rodriguez, lors d'une conférence de presse. Ce sont majoritairement des plaques tournantes du trafic de drogue où les assassinats en tout genre ont atteint des niveaux alarmants, plus de 100 000 morts entre 2006 et 2019, plus de 27 000 disparitions reconnues par l'État mexicain et plus de 2 000 enquêtes sur des cas de torture. Le nombre précis de féminicides, encore une fois, reste incertain. Le dernier meurtre en date mis en lumière par les médias, parce qu'évidemment il y en a encore d'autres actuellement à l'heure où je vous parle, alors je vais essayer de ne pas écorcher les noms, c'est celui de Noémie Medina Martinez et Yulisla Ramirez, toutes deux âgées de 28 ans, vivant au Texas, qui ont été tuées le 17 janvier 2022 alors qu'elles rendaient visite à la famille à Ciudad Juárez. Je fais un petit trigger parce que les circonstances sont violentes. Le couple qui laisse derrière lui trois enfants a été torturé, assassiné et démembré, puis jeté à la rue dans des sacs poubelles. Au total, ce seraient 3427 femmes qui ont été assassinées sur les 11 premiers mois de l'année 2021 au Mexique, a rapporté le gouvernement le 25 décembre 2020. Enfin, je cite le rapport d'Amnesty International qui montre que les autorités étatiques n'examinent pas correctement les lieux où les faits se sont produits, ne conservent pas de façon appropriée les preuves qui ont été collectées et ne procèdent pas à des expertises, ce qui cause la perte de données, d'objets, de substances et de témoignages. Les autorités n'examinent pas toujours toutes les pistes et ce sont donc les familles des victimes, généralement les femmes, qui doivent mener les enquêtes en utilisant leurs propres ressources. Dans certains cas, les autorités ont menacé et harcelé les familles afin qu'elles n'attirent pas l'attention de leur supérieur hiérarchique sur ces affaires. Par ailleurs, les autorités n'appliquent pas toujours la dimension de genre pendant toute la procédure pénale, contrairement à ce que prévoient les protocoles pour les enquêtes sur la mort violente de femmes. Ciudad Juárez reste hantée par les meurtres et disparitions de jeunes filles. Ces drames sont camouflés par la guerre entre cartels qui sévit et les chroniqueurs locaux décrivent la ville comme un musée de l'impunité à ciel ouvert. Le contexte posé, on va se pencher sur les propositions théoriques de Rita Laura Secato qui, attention, il faut le préciser, ne prétend pas rendre compte de l'ensemble des féminicides. D'autres sont aussi tristement célèbres comme le massacre de Polytechnique au Québec en 1989 ou encore le massacre des femmes mayas au Guatemala par l'armée régulière dans les années 1960 à 1990. Tous ces crimes ne répondent pas au même schéma que celui de Ciudad Juárez mais opèrent avec la même terreur et complicité des dirigeants du pays. Il nous est rappelé dans l'ouvrage que le féminicide est une arme de guerre utilisée par les armées régulières et paramilitaires pour détruire l'âme et la culture des peuples autochtones ou issus de la traite, afin de s'emparer de leurs terres et de leurs richesses minières ou de contrôler les voies du commerce de la drogue. Le premier concept popularisé par l'anthropologue, c'est celui de « mandat de viol patriarcal ». Le viol est en effet, selon Secato, je cite, « une injonction et une performance genrée de masculinité ». C'est dans cette performance que le viol se transforme en un langage qui relie l'homme à la fratrie fondatrice et reproductrice du patriarcat. Et c'est ce langage qui rend cette violence structurelle. Le féminicide à Ciudad Juárez est un crime organisé dont la violence est structurellement menée par ce que Secato appelle un second état. Ce sont la plupart du temps des structures mafieuses qui œuvrent en réseau, par exemple les groupes de narcotrafiquants ou de traite des femmes, voire même des groupes para-étatiques, en lien avec tous les organes de l'État, dont la justice et l'éducation. Des organisations qui fonctionnent comme des sociétés secrètes, si on reprend l'expression d'Anna Arendt, Secato nous précise que l'appropriation violente du corps des femmes et leurs annexions au territoire conquis rendent compte de nouvelles formes de guerre territoriale dont les femmes sont devenues les cibles. Face à de telles accusations, évidemment, les médias détournent le regard du monde sur des fausses pistes pour nous empêcher de découvrir les véritables mobiles de ces crimes et surtout d'interpréter, comme le fait Secato, les faits qui les renouvellent. Tout est constamment rejeté sur la sphère privée, ce qui renforce le caractère psychopathologique et passionnel plus que politique de ces crimes. Je cite « Ce détournement médiatique induit ainsi dans l'erreur d'envisager cette violence comme le fruit d'un acte privé là où le patriarcat s'impose à tous et à toutes par une politique de la violence publique ». En effet, moi ce qui me reste de ces images médiatiques en 2012 par exemple, c'est surtout ces croix roses plantées dans le désert de Juárez en mémoire aux victimes et les vagues raisons derrière, j'en ai trop peu de souvenirs malheureusement. L'anthropologue va poser plusieurs questions pour tenter de saisir les enjeux de ces meurtres tels que quand le violeur viole et rapporte sur ce viol, à qui parle-t-il? Que nous dit-il de son acte et dans quel but? En quoi les interlocuteurs réels ou fantasmés indirectement cités ou conviés de ces discours peuvent-ils expliciter leurs crimes? Peut-on analyser le féminicide comme un énoncé avant toute chose, un acte de communication adressé à des locuteurs privilégiés? Qui sont ces interlocuteurs ou interlocutrices et pourquoi s'établit une telle interlocution? Ce sont des questions très pointues, techniques, mais quand on s'y penche, c'est très clair. Il faut entendre l'acte de viol comme un langage pour saisir ses enjeux sur le territoire. Voilà pourquoi elle parle d'écriture sur le corps des femmes assassinées, parce que selon ses propos, il s'agit là d'une part d'un énoncé punitif situé sur l'axe vertical de la domination masculine et qui s'adresserait à la victime. Un énoncé qui va renforcer la souveraineté masculine par le sacrifice comme une forme d'écriture sacrificielle sur le corps des femmes. Aujourd'hui, on parle désormais d'une problématique transnationale et Ciudad Juárez est un des nombreux exemples de politiques de conquête et d'appropriation des territoires et des corps par la mise en spectacle de l'horreur, comme le décrit Secato. Un autre concept phare de sa pensée théorique est celui de pédagogie de la cruauté qu'elle définit comme tous les actes et pratiques qui enseignent, habituent et programment les sujets à transmuter le vivant et sa vitalité en choses. Donc en gros, une déshumanisation de l'individu. Pour combattre cette pédagogie de la cruauté, eh bien, Secato va proposer tout simplement une contre-pédagogie de la cruauté qui consisterait en 4 points. 1. Lutter contre le pouvoir et le patriarcat dans sa désensibilisation corporatiste, sa technocratie formative et la destruction de l'interconnectivité du lien social. 2. Valoriser l'historicité des femmes et une politique topique au féminin à distinguer des politiques utopiques et du déracinement infligé par les patriarcats de haute intensité. 3. Redonner la parole aux hommes en tant que première victime du patriarcat pour les aider à se soustraire à la violence structurelle de la masculinité. 4. Conscientiser un monde du lien, de l'attachement et de la communauté pour mettre fin à la chosification de la vie. Encore une fois, c'est un peu technique, mais c'est important de poser correctement les termes, puisqu'encore une fois, je le redis, si on fait appel à Secato, c'est pour proposer une transformation au niveau juridique avant tout. Elle va aussi identifier les 6 puissances signifiantes de la masculinité au sein du patriarcat, à savoir la puissance sexuelle, qui est selon elle la plus fragile, la puissance guerrière, économique, politique, intellectuelle et morale qui s'exhibe avec différents degrés de cruauté et d'insensibilité dans un défaut d'empathie rattaché à l'emprise sur les territoires. C'est absolument tous les pans du fonctionnement de la société qui sont touchés. La performance de la masculinité est, selon Secato, mandatée dans l'esprit bureaucratique et patriarcal propre à l'État colonial. Et elle insiste sur le terme mandaté, comme elle a pu le faire durant un colloque à l'université de Paris Diderot en 2017 sur les féminicides où elle était l'invitée d'honneur, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une vive discussion sur la traduction de l'expression mandato de masculinidad, qui en français correspond à une injonction de masculinité. Mais c'est le terme mandaté qui va réellement renvoyer, selon elle, à l'écrit et au décret, à un contexte et à une administration coloniale dont elle tient à rappeler l'existence et l'héritage historique dans l'expression courante. En se posant la question du pourquoi, Secato démontre que l'argument du mobile sexuel, dont on abuse tant, devient insuffisant. Elle cherche sans cesse de nouvelles typologies, une plus grande précision dans les définitions et à concevoir de nouvelles catégories juridiques. Je cite « Aucun crime commis par de simples marginaux ne se répète aussi longtemps en toute impunité et aucune police sérieuse ne parle avec une telle légèreté de ce qui, de manière générale, éclaire le fruit d'une longue enquête, c'est-à-dire du mobile, du motif, du pourquoi d'un crime. Ces vérités élémentaires ont ébranlé Ciudad Juárez et se sont révélées imprononçables. La souveraineté passe par une maîtrise de la femme censurée, disciplinée, réduite par le geste violent du violeur, de l'agresseur et ou du meurtrier, qui va incarner la fonction souveraine. Il s'adresse à ses pairs et leur demande de l'accepter dans leur société. La femme violée devient une victime sacrificielle, plongée dans un rituel initiatique, je cite encore une fois. Il rivalise avec eux en démontrant qu'il mérite, de par son agressivité et pouvoir de mort, d'occuper un lieu dans la fraternité virile, jusqu'à atteindre un statut important dans une fratrie qui ne reconnaît qu'un langage hiérarchique et une organisation pyramidale. La victime sacrificielle devient une fraction d'un territoire dominé. Son corps contribue à la cohésion et à la vitalité du groupe. Pour Secato, la langue du féminicide utilise le corps féminin comme signifiant. Elle indique ainsi la position de ce qui peut être sacrifié dans l'intérêt du bien commun, d'un bien collectif, comme peut l'être la constitution d'une fratrie mafieuse. On va même jusqu'à rendre coupable la victime qui serait elle-même responsable de la cruauté avec laquelle on l'a traitée. Elles sont tuées parce que ce sont des prostituées, des menteuses, des fêtards, des droguées. Elle précise que dans un espace totalitaire, la valeur la plus martelée est celle du « nous ». Le « nous » est un concept qui devient défensif, barricadé, patriotique et celui qui l'enfreint est accusé de trahison. Dans ce type de patriotisme, les autres rattachés en interne à la nation, à la région, à la localité, toujours les femmes, les noirs, les peuples originaires, les dissidents sont les premières victimes. Ces autres de l'intérieur sont réduits à se sacrifier, se taire et à reporter leur plainte et l'argumentaire de leurs différences au nom de l'unité sacralisée. Les féminicides de Ciudad Juárez ne sont donc pas de banals crimes sexistes, mais bien des crimes organisés et plus spécifiquement des crimes de second état, d'un état parallèle, des crimes corporatifs dans lequel prévaut la dimension expressive du contrôle totalitaire. Elle entend par crime corporatif le fait qu'un groupe ou un réseau bien établi dans la région, dont les tentacules se déploient jusque dans les hautes sphères du pouvoir national, administre les ressources, les droits et les devoirs propres d'un état parallèle. Cecato exprime l'importance d'exposer ces problèmes aux yeux du monde et dit très justement « Les conditions historiques qui nous transforment en monstres ou complices des monstres nous guettent tous. La monstrification constitue une menace pour tous, sans exception. La victimisation aussi, il suffit d'établir une frontière rigoureuse et précise entre un « nous » et un « eux » pour mettre en marche le processus. Par ailleurs, et pour donner un autre exemple, le problème du racisme est aussi un problème qui concerne tout le monde et pas uniquement celles et ceux qui en souffrent. Le problème du racisme, c'est votre problème à vous, les Blancs, qui le produisez, m'a-t-on dit un jour. Et celles et ceux qui voient passer sous leurs yeux le processus de sa reproduction, en croyant que cela ne les touche point, auront un lourd tribut à payer. Pour terminer, dans une petite interview à la fin du livre, Rita Laura Cecato exprime quelque chose de fondamental. Nous ne conversons qu'avec les personnes avec lesquelles nous sommes d'accord, et c'est aujourd'hui un problème extrêmement grave. Nous n'avons donc aucune curiosité en dehors de notre propre monde éthique et politique. Et plus loin, elle ajoute « J'écris pour comprendre, je n'écris pas avec une quelconque aspiration, et je n'écris pas non plus, contrairement à ce que je vois chez certaines personnes, pour ce que les gens veulent lire. J'écris pour analyser, pour comprendre, pour une raison personnelle et pour un groupe de personnes qui exigent de moi de comprendre un sujet. » À Ciudad Juárez, ce fut effectivement ainsi. Si je me suis rendue là-bas, c'est que des organisations qui avaient besoin de comprendre l'incompréhensible, l'inintelligible, m'y ont convié. Voilà, une rapide présentation de l'immense travail de recherche que mène cette femme brillante, Rita Laura Cecato, au même titre que beaucoup d'autres, comme pour ne citer que cette chercheuse et féministe mexicaine, Marcela Lagarde. Je vous invite à lire cet essai et surtout l'œuvre tant attendue et détaillée de son travail, qui devrait paraître en avril, comme j'ai dit précédemment, à savoir « La guerre contre les femmes ». Je vais conclure en lisant la fin très forte de la postface, écrite par la psychologue française Pascale Moulinet, qui clôt très justement cet essai et qui nous dit « La division entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre les autres, fait le jeu du pouvoir. Il existe plusieurs courants au sein du féminisme, aussi peut-on dire les féminismes. Mais je n'en parlerai pas en termes de division, comme on le fait trop souvent dans le but d'émousser la portée des idées et des actions féministes. Nous n'avons pas à être d'accord. La conflictualité du débat fait partie du jeu démocratique. Féminicide et impunité doivent être discutés dans leur forme spectaculaire autant que banalisée. Ciudad Juárez en est une illustration tragique. Les femmes sont toujours les premières victimes de l'effacement des démocraties.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que malgré les vents très forts à Toulouse, vous avez eu une journée de douceur. Aujourd'hui, j'ai décidé de me jeter à l'eau et de vous lire un texte que j'ai écrit moi-même qui s'appelle « Nobody is an island ». Personne n'est une île. Pourtant, engouffrée dans le sable en cherchant la terre, je suis une île. Alors je fais quoi? Je me lève, je pars, je reviens, je te cherche toi ou moi ou nous, alors que je sais que tu n'es pas dans mon monde, pourtant je te cherche. Je regarde l'eau et je me dis juste que tout ce bleu relie des lieux de vie comme les veines d'un corps. Là où je suis, là où tu es, là où je serai, où j'irai pour me perdre encore une fois. Personne n'est une île. Et pourtant, j'ai l'impression que le monde entier se cherche par une quête solitaire dans les autres, par des voyages, pour trouver ces personnes, pour construire une toile si agrippée et dans les fils enlacés de tout ce que l'on ressent et voit de l'autre, dans ces fils perdus de paroles, de rires, de regards, d'espoir, de perte et de désillusion, dans cette toile créée pour que toi et moi trouvions une place, pour que mon monde se construise, et que chaque fil devienne comme cette goutte d'eau qui crée ce large azur que je regarde assise sur la plage. J'ai toujours voulu partir loin, pour aller jusque là où mon fil se déroule, pour sentir jusqu'où l'élastique de ma vie peut s'étirer, et voir comment ce chaos se rythme dans les années, qui restera, qui part, qui sera là même quand moi je ne le serai plus. Étudier toutes ces attaches de moi-même et les histoires qu'elles peuvent raconter comme une biographie inachevée ou un album photo qui ne cesse de se renouveler. J'imagine parfois à quoi ressemblerait le monde si toutes les connexions créées par chacun et chacune deviendraient visibles. Une multiplicité d'individus dans des toiles qui se superposent, se composent, se détachent, comme une énorme forêt avec des racines entremêlées qui parcourent le temps et deviennent le filet de chacun pour se rattraper et tout reconstruire à chaque fois. Ces racines qui font que je peux partir, qui dans ces pas que je fais résonnent pour les adoucir et m'accompagner comme une danse invisible qui ne cesse de se recomposer. Personne n'est une île. Car lorsque je ferme les yeux et que le noir m'emporte, je sens toutes les attaches que j'ai créées me tirer vers une lumière qui me rapproche de moi-même. Je ne sais pas d'où vient cette sensation que le monde nous rattraperait. Peut-être que c'est juste là, chez chacun, chacune, comme la capacité de respirer, aussi vitale. Apprendre à partir, c'est ce que le monde fait. De génération en génération, de vie en vie, partir, quitter, retrouver, détruire, rebâtir. Et je ne pourrais être une île, car dans chaque univers que je refonde, il y a cette toile qui crée les lieux où je me sens plus chez moi que là d'où je viens. Ces lieux qui m'embrassent lorsque je rentre, pour sortir de ces vagues là où la vie m'emmène, pour trouver tous les endroits où il y a ceux qui me font être, et des toits pour que je puisse être moi. Thank you.
Désolée pour ce petit, cette petite transition abrupte. Ici Manon, je vais vous lire un petit poème en témoignage de mon passage chez le coiffeur, petite, comment dire, dépointage de printemps. Ce poème s'appelle « Jésus, hairdresseur ». Jour de carême, ça sert à ôter des choses. C'est ce que me dit le coiffeur, quand il entame à couper mes cheveux qui avaient pris leur temps dans l'indécision. D'abord, il m'a dit « Fais comme chez toi, ma chérie, enlève ta veste et montre-moi ce que tu veux. » Il m'a dit là, dans l'évier, « Laisse aller ta tête et l'eau a coulé. » J'ai imaginé mes boucles qui s'en allaient. Le coiffeur me dit « Jésus, je l'ai rencontré. Rencontré, deux fois. » Moi, je voulais retrouver mes paupières, jolies paupières d'autrefois. Ôter les boucles qui ne voulaient plus rien dire. Cachés seulement, faisaient des signes vains, imitaient les tiennes dans un désespoir creux. Retrouver quelque chose, oui, en creusant dans la nuque avec les ciseaux, le peigne et la tondeuse. D'ailleurs, le coiffeur m'a dit « Aujourd'hui, je vais faire de toi ma sculpture, en rond de bosse. » Je pense à Jésus. Il me parle de Lourdes, me dit qu'il va faire le pèlerinage avec sa femme, jusque là-bas. De son téléphone, on entend la prière, qui grésille. Il me dit « Moi, je peux t'en faire rencontrer des prêtres formidables. Comme ça. » Il lève son pouce. Et je ne vois que ses yeux emplis de foi. Il me dit « Tu dois retrouver l'amour. D'ailleurs, ma belle, est-ce que tu crois? Avec des yeux comme ça, tu dois bien croire en quelque chose. Et puis d'abord, est-ce que t'es amoureuse? Hein? Belle comme tu es, il y a forcément quelqu'un qui pense à toi. » C'est ce qu'il me dit. J'explique que oui. Enfin, que non. Que l'amour en question est parti vers la mer. Mais je ne m'étends pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour moi, pour retrouver l'amour de mes yeux, de mes paupières battantes, et m'empir de joie. Il me dit « ça tombe bien ». Il me dit « tu n'es pas entré là par hasard. C'est quelque chose de plus fort qui t'a fait entrer ici. » Il dit « l'amour ». Il dit que c'est certainement le grand esprit qui m'a fait venir là, dans sa boutique. Je le regarde, dans le reflet de la glace, comme un rebond. Je pense qu'il a peut-être raison. Avec ses sermons d'amour, il va peut-être finir par me convaincre. Mais moi, je crois surtout en la colère, celle qui demande au corps de se défaire. Je pense à Jésus et à sa grâce. Je me dis qu'il devait être bien gentil, Jésus, pour le reste, pour le résultat de nous autres. Et puis aussi que c'est facile de représenter quelqu'un avec les yeux au ciel, une fois qu'on l'a voué au silence. Yeux qui supplient et qui semblent dire aussi « merci ». Croire en l'amour, je n'y ai plus tellement de goût. Et puis, je me préfère maintenant que je sors du salon, avec ma tête retrouvée, frondeuse et libérée. Personne ne peut plus m'entraver par les cheveux, vous voyez? Jésus, c'est le Dieu des hommes. J'attends à présent de m'aimer.
On va vous lire un deuxième poème de Manon, qui s'appelle « Dandelion », et qui est un poème d'amitié, une déclaration d'amitié. Nous avons longé de grandes rues rousses avec nos vélos courts. Tu as porté sur ta selle des chevalières en jeans retroussés, lourds.
J'ai appris de toi l'accent des trottoirs nord, est, atlantique, mer baltique qui traînent le pas sur les langues.
On m'avait dit
« Méfie-toi des filles des pavés bruxellois ».
Elles ne te restent pas bien longtemps entre les doigts, on m'avait dit ça, tout comme mes vers maintenant. Message m'y était fait. À l'usure, on se fait à tout, tu sais. Comme à une confiture qui colle à la peau, aux cils partout, comme aux ailes des mouches et au type que l'amour effraie.
Tout compte fait, la confiture entre les visères, on se fait à tout, à l'œil dans l'œil, au reflet dans la flaque de celui qui nous renverse ou de celui qui nous écrase.
Mais pas celle-là, celle qui emmène cette autre-là sur sa selle, un soir de 8 mars. Sidération. Wit, comme elle dit. Parce que ça, c'est inédit. On se dit qu'elle, elle, a du plomb dans la cuisse, de l'innervation dans la systole-diastole, là où depuis tant d'années passées à fumer la raclure sur le bitume, on s'est abîmé la cellule, on se dit
« Merde, en voilà un sacré spécimen d'ange pédaleur !»
un de ceux qui vous feraient croire en Dieu. Bon sang, des cellules bien oxygénées,
toutes prêtes pour la sacristie, toutes prêtes pour le repentir. Pas besoin de repentir, faut croire. Parce qu'à la voir pédaler comme ça, la fille.
Avec l'autre fille sur sa selle, c'est à se donner le vertige pour plusieurs vies. Et des yeux à retourner chez les sirènes. Nous avons longé de grandes rues rousses, avec nos vélos courts. J'ai heurté mon front.
J'ai dit pardon.
Pardon, mon sang, je ne voulais pas frémir. Voilà des années que je voulais pleurer, et maintenant, cette soif retrouve le puits
dont elle se sentait l'exil.